Nous allons écouter Xavier Malbray. Alors, on a toujours cette juxtaposition qui est toujours assez suggestive, je trouve. On vient d'entendre quelqu'un qui travaille sur des textes écrits par d'autres, qu'il récupère sur l'ordinateur et dont il fait une analyse. Et maintenant, nous allons écouter un créateur de textes. Parce que l'internet littéraire francophone, cette littérature, c'est aussi une littérature vivante et qui utilise ce nouveau support. Donc Xavier Malbray est de ceux qui créent des textes pour la toile, textes sur des supports électroniques. Il a aussi des activités universitaires.
C'est ça.
Mais c'est en tant que créateur littéraire qu'il va nous parler de son travail, donc que nous aurons l'occasion de voir ce soir.
Oui, donc merci à vous d'être là. Donc avant de donner ma communication, je tiens quand même à remercier tout particulièrement les organisateurs de cet internet littéraire francophone. Peut-être. Et donc signaler le cadre dans lequel s'est déroulé ce travail, le travail de recherche dont est issue ma communication. Donc à la fois un travail sous l'aimable sollicitation de Serge Bouchardon qui est ici, donc pour la BPI Pompidou, et donc un travail de doctorat donc à l'université de Toulouse-Le Mirail sous la direction de François-Charles Godard. Donc à présent, je vais rappeler les circonstances dans lesquelles cette recherche s'est accomplie. J'aime bien donner un tour assez vivant à une recherche, puisqu'une recherche, malgré tout, ce sont des jours qui se succèdent, un objet de recherche que l'on parfois ne soupçonne pas. Donc c'est aussi une aventure humaine, une aventure de la pensée, et j'ai envie d'essayer de restituer ça, non pas de vous donner simplement le résultat final. Donc avant de devenir chercheur et donc de pouvoir vous proposer une approche d'une méthodologie critique des œuvres de littérature informatique, j'étais d'abord un créateur isolé qui s'est aperçu que sur ordinateur puis sur internet on pouvait très facilement donc et sans la moindre sans le moindre filtre d'un éditeur, on pouvait créer très facilement, on pouvait également créer sans se soucier de questions de genre ou de champ, sans se demander si on faisait de la littérature ou si on était dans les arts plastiques. Bref, il y avait une liberté incroyable de création qui n'existait pas en littérature traditionnelle et que donc je me suis beaucoup évertué à creuser. Donc de cette liberté de création, j'ai fait usage en mettant en ligne des œuvres dont je vais tout de suite vous montrer un exemple, comme ça vous verrez tout de suite voilà ce que ça peut recouvrir, donc la création donc en littérature informatique. Donc j'ai fait usage de cette liberté de création, et ça m'a amené également de créateur isolé à devenir membre d'une liste de diffusion. Donc vous savez tous ici tout l'intérêt des listes de diffusion. Donc cette liste, c'était la liste écriture, fondée à l'origine par un poète informatique qui s'appelle Éric Serrandour, et donc liste à laquelle j'ai participé activement et dont je suis également devenu modérateur pendant à peu près 2 ans, et à laquelle je continue d'ailleurs je continue de participer donc à cette liste. Donc puisque j'ai parlé de littérature informatique, et donc avant d'aller plus loin, il serait peut-être intéressant d'essayer de définir ce que c'est que la littérature informatique, ce qui n'est pas tout à fait évident. Donc une œuvre de littérature informatique, je veux parler ici de la littérature de création, puisque n'entrera pas dans vos propos tout ce qui pourrait ressembler à l'adaptation d'une œuvre antérieure que l'on ferait migrer d'un support papier à un support numérique. Donc une œuvre de création, une œuvre de littérature informatique est l'actualisation par un lecteur mécanico-électronique d'un ensemble fini ou infini de fichiers numériques liés entre eux. un ensemble fini, donc on comprend bien ce que cela veut dire, c'est un fichier numérique qui va, comment dire, être la matrice de l'œuvre, laquelle matrice sera lue par le lecteur mécanique puis par le lecteur humain. Un ensemble infini, c'est donc certaines œuvres qui ont intégré dans leur fonctionnement une base de données qui peut s'augmenter sans cesse. Bon, comme par exemple un projet bien connu des amateurs de NetArt, le Adam Project, ou également le Livre des Morts, que j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ce soir, mais c'est pas tout à fait sûr, puisqu'il risque d'y avoir des coupures de réseau. Donc le Livre des Morts, par exemple, s'augmente tous les jours de nouvelles participations de lecteurs qui, à leur tour, deviennent auteurs. Voilà. Donc une œuvre de littérature informatique est l'actualisation par un lecteur mécanico-électronique d'un ensemble fini ou infini de fichiers numériques liés entre eux. Donc pour qu'une œuvre de littérature informatique puisse exister, il faut que le schéma donc, que vous voyez ici soit réalisé. Donc nous voyons qu'une d'une œuvre de littérature informatique suppose un auteur et un lecteur dans la même disposition de moyens. C'est une spécificité unique pour l'heure dans le domaine des arts que de mettre le récepteur et l'émetteur dans quasiment la même situation en face de l'œuvre. Maintenant, sur le terme de littérature informatique, on pourrait s'interroger, ce n'est pas le seul adopté. Parfois, on entend le terme littérature électronique, on a entendu littérature hypertexte, etc. Donc, pourquoi le terme littérature informatique ? Donc, on pourrait évidemment reprocher l'utilisation du terme littérature, puisque dans l'étymologie de littérature, il y a évidemment le mot lettre. Mais je m'appuierai sur un article de Jean-Marie Schaeffer dans sa nouvelle encyclopédie des sciences du langage sur la littérature orale, où il dit que finalement le terme littérature orale semble une impropriété, donc pour les raisons que je viens d'exposer, mais que finalement pour désigner ce que désigne la littérature orale, finalement le terme de littérature orale est le plus approprié, et que l'on pourrait donc considérer que littérature orale et littérature écrite sont les deux versants, donc je cite, sont les deux versants d'un art verbal. Donc là je cite Jean-Marie Schaeffer. Donc finalement, la littérature informatique, dans la littérature informatique, dans le fichier de l'œuvre, il n'y a évidemment pas de lettres, il n'y a que des chiffres. Mais considérant qu'une œuvre de littérature informatique va mettre des mots à l'écran, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient dits, donc on pourrait considérer, en s'appuyant sur la réflexion de Jean-Marie Schaeffer, que la littérature informatique, puisqu'elle met des mots à l'écran, mais pas seulement des mots comme vous avez pu le voir, mais aussi des images, des couleurs, etc., et beaucoup d'autres choses que l'on pourra voir par la suite. Donc la littérature informatique pourrait être considérée comme un autre versant d'un art verbal. Donc est-ce que la littérature informatique est un nouveau genre à l'intérieur de la littérature, ou est-ce qu'elle définit un nouveau champ? Bon, ce sont des questions qui intéressent peut-être surtout les spécialistes, mais on pourrait dire très rapidement qu'à l'intérieur d'un méta-champ qui serait celui de l'art verbal, il y aurait la littérature orale en premier, la littérature écrite et maintenant la littérature informatique. Voilà donc pour expliciter ce terme de littérature informatique. Donc revenons maintenant aux circonstances qui m'ont amené de l'écriture d'œuvres de littérature informatique jusqu'au sujet de la communication de ce jour, à savoir la méthodologie d'approche critique de la littérature informatique. Donc comme je l'ai déjà précisé, la modération de la liste d'écriture m'avait creuser ma réflexion autour de ce que je pratiquais moi en tant qu'auteur. Il a fallu en fait donc un travail de recherche à l'université de Toulouse Le Mirail pour donner des fondements plus solide à cette recherche. Donc cette recherche a commencé par la lecture des messages de la liste écriture, puisque dans un des objets de cette liste était de discuter les œuvres qui étaient proposées par leurs auteurs. Donc il y avait un certain nombre de lecteurs experts, donc des universitaires, certains des auteurs, des critiques, des journalistes, des lecteurs à l'intérieur de cette liste, il y a toujours, puisque d'ailleurs elle continue toujours à exister, qui discutaient des œuvres qui étaient présentées par leurs auteurs. Donc je me suis appuyé sur ce corpus de messages pour essayer de dégager la naissance d'une critique des œuvres de littérature informatique. Et donc j'ai pu pointer un certain nombre de choses. parmi lesquels, l'examen, le premier examen d'une œuvre de littérature informatique, commençait par en fait le test de cette œuvre. Alors là, je me suis appuyé sur un propos d'un journaliste de Libération qui s'appelle Olivier Séguré, qui fait la critique de jeux vidéo, et qui a parlé à un moment d'une esthétique du test. Donc il dit, finalement, il n'existe pas encore de mots pour parler des œuvres de littérature informatique. Lui, il parlait des jeux vidéo, mais peu importe. Il n'existe pas encore de vocabulaire pour en parler, mais pour l'instant, on s'arrête à une esthétique du test. C'est-à-dire qu'on teste l'œuvre. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Bon, tout le monde a lu des critiques de jeux vidéo, donc est-ce qu'on passe un palier? Est-ce qu'on ne passe pas un palier? Etc. Et pour les œuvres de littérature informatique, il y avait ce préalable. Avant de parler de l'œuvre, on se demande si elle fonctionne, si tous les ordinateurs, toutes les plateformes permettent de la recevoir, si on peut passer d'une étape à l'autre, etc. Donc c'était quelque chose d'assez troublant de voir qu'une œuvre littéraire ou une œuvre artistique pouvait être testée. On ne teste pas une œuvre littéraire, on ne teste pas un tableau. Et bien là, oui, on doit tester l'œuvre avant de pouvoir en discuter. Donc c'était déjà un élément important qui nous renseignait sur la nature de la littérature informatique, c'est-à-dire que c'est une littérature qui ne pourra jamais être séparée de son format. Et c'est une œuvre qui demande une certaine technicité, et donc il faudra toujours en tenir compte lors de l'examen critique d'une œuvre de littérature informatique. Une autre remarque intéressante au cours de ce travail sur ce corpus de messages de la liste d'écriture, ça a été l'examen critique d'une œuvre proposée par une jeune auteure dont l'intitulé était ce qui me passe par la tête, enfin l'URL était ce qui me passe par la tête.com. Donc je vais vous montrer l'intitulé, comme ça sera plus simple. Voilà, donc vous l'avez ici, voilà, ce qui me passe par la tête.com. Alors, cette URL était intéressant, et donc je développerai ça par la suite, mais il y a une remarque qui m'a particulièrement intéressé. Elle a été formulée par Rodrigo Reyes, qui est bien connu par les gens qui s'intéressent à toute la culture numérique. Donc c'est le créateur du site charabia.net qui propose des générateurs de textes assez amusants. Donc il a dit, finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette jeune auteure propose un site, et qu'en faisant une recherche avec des instruments de recherche sur Internet, on se rend compte que cet auteur a aussi un site en nom propre et un site professionnel. Donc il a fait la remarque suivante, ces deux sites créent un effet miroir, l'un du versant création littéraire et l'autre versant professionnel. Donc ce qui était intéressant, c'était la démarche de Rodrigo Reyes d'aller sur Internet faire une recherche en prenant comme coordonnées le nom de l'auteur et le site. Et grâce à cette recherche, il a pu induire un certain nombre de réflexions, de conclusions. Sur cette même œuvre, il y a eu également une réflexion sur le multifenêtrage qui était organisé par l'auteur. Donc le multifenêtrage, c'est l'ouverture de plusieurs fenêtres à l'intérieur d'une même page HTML, et donc certains lecteurs ont remarqué qu'il se crée à cette occasion un effet de labyrinthe. Donc c'était intéressant de voir qu'un effet de labyrinthe, donc quelque chose que l'on connaît quand on est lecteur, n'était pas créé par des mots, n'était pas créé par des images, mais était créé par l'utilisation des logiciels de création de sites. Donc c'était quand même intéressant de noter ça, que maintenant on peut signifier les choses, non plus seulement avec des mots, non plus avec des images, mais avec une installation habile de nouvelles fenêtres à l'intérieur d'une page HTML. Voilà, donc un certain nombre de remarques avaient été faites au cours de l'épluchage de ce corpus, et à partir donc de ces quelques remarques, j'étais amené ça va faire l'objet d'un travail de recherche en doctorat, donc dont je peux vous présenter donc ici les prolégomènes, donc à une méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique. Donc avant de comment dire, de commencer ce travail de méthodologie d'approche critique, il fallait quand même poser une objection majeure. Donc par exemple Edmond Couchot dans l'art numérique l'a très bien posé, mais Jean-Pierre Balck aussi l'a posé en d'autres termes. Donc l'objection majeure à une critique des œuvres numériques, c'est tout de même que ces œuvres numériques, pour certaines, sont non reproductibles. Pour certaines œuvres même, posent ça parmi leurs fondements, comme certaines œuvres de Philippe Boutz, des œuvres à lecture unique, sont non reproductibles, ou certaines œuvres de Jean-Pierre Balck aussi. Donc on ne pourra voir qu'un seul état de cette œuvre. Comment donc faire une critique d'une œuvre dont on sait très bien que personne ne la verra de la même façon ? Est-ce que même une critique est possible ? Donc il fallait quand même lever cette objection avant de commencer un travail de méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique et des œuvres numériques en général. C'est une objection majeure à laquelle il fallait répondre. Donc je me suis appuyé pour commencer ce travail sur les réflexions autour de l'URL qui avait été faite dans cette liste écriture. Donc les réflexions autour de l'URL, je me suis particulièrement penché dessus, et donc je me suis rendu compte qu'une œuvre de littérature informatique en ligne, en tout cas, est constituée d'un URL à partir de laquelle on la trouve et d'un fichier numérique. Donc ces deux éléments sont stables pour certains, peuvent être notés à l'intérieur d'un protocole. Donc on sait que tel jour à telle heure telle URL existe et qu'il donne un certain résultat. Donc on va pouvoir déjà marquer ceci au sein d'un protocole. On sait qu'également il existe un fichier numérique de l'œuvre auquel on peut d'une certaine façon accéder. Voilà. Donc il y avait deux façons d'étudier ces deux éléments, l'URL et le fichier numérique de l'œuvre. Soit de façon immédiate, c'est-à-dire immédiate, en fait, tout de même par la médiation d'un ordinateur connecté à l'Internet, mais avec une lecture humaine, soit de façon médiatisée, c'est-à-dire à partir de moteurs de recherche qui vont pouvoir nous donner un certain nombre de renseignements sur ces œuvres. Donc deux façons d'analyser ces œuvres numériques, immédiates et médiatisées. Donc l'analyse immédiate d'une œuvre de littérature informatique, j'ai pour l'instant, donc puisque c'est un travail de recherche qui est en cours, donc pour l'instant j'ai voulu me pencher sur quatre éléments qui pourront être tenus pour certains à l'intérieur toujours d'un certain protocole qui par exemple notera la date du travail d'observation, qui notera l'appareil de réception, voilà, donc qui notera un certain nombre de conditions d'examen de l'œuvre. Donc ces quatre éléments sont pour l'instant l'URL, la page d'accueil, les balises aide et le format des œuvres. Donc l'URL de l'œuvre, c'est-à-dire son adressage sur le réseau Internet, sans quoi nous ne pourrions y accéder, est la première chose qui parle pour l'œuvre de littérature informatique en ligne. Donc on a vu par exemple cet exemple très 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 frappant de cette œuvre intitulée « Ce qui me passe par la tête.com » qui dit bien que l'auteur va se livrer à un exercice d'autofiction, mais que d'une certaine façon cet exercice d'autofiction est aussi dénoncé à travers ce titre « Ce qui me passe par la tête ». C'est en général ça dénote des idées fugitives qui ne sont pas forcément d'une importance capitale. Donc c'est ce qui me passe par la tête, ça peut être quelque chose de très futile, et d'une certaine façon on pourrait penser que cet auteur en livrant cet essai d'autofiction veut aussi dénoncer une certaine pléthore de récits d'autofiction qui finalement n'arrivent plus qu'à fixer ce qui me passe par la tête. Voilà. Donc je me suis quand même assez vite rendu compte que l'on pouvait faire une analyse sémantico-syntaxique de l'URL d'une œuvre, et de ça nous pouvons être certains, puisque nous n'avons pas besoin d'ouvrir l'œuvre, nous n'avons pas besoin de faire une lecture singulière de l'œuvre pour pouvoir analyser l'URL. L'URL, lui, est fixe. Disons qu'on peut être certain de lui à l'intérieur d'un protocole. L'URL n'est pas fixe, puisque il y a l'exemple très connu pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là de www.trajectoire.com, qui était une œuvre de Jean-Pierre Balbe, c'était un roman génératif. cette URL a disparu pendant un temps. Est-ce qu'elle a réapparu? La dernière fois, j'en ai parlé à Jean-Pierre Ball, qui m'a dit que ça allait réapparaître. J'ai pas fait dernièrement la recherche, mais a priori, l'œuvre n'est pas réapparue sur Internet. Si? Ah oui? Ah d'accord, donc elle a réapparu, voilà. Donc on sait que www.trajectoire.com est apparue un certain jour, qu'elle a disparu, que maintenant elle est réapparue. Donc il faudra toujours se soucier de mettre l'analyse de l'URL à l'intérieur d'un protocole qui notera, par exemple, la date de l'observation. On peut également noter la façon dont on est arrivé à trouver cette œuvre. Voilà, il y a un certain nombre de paramètres que l'on peut mettre en place et qui nous garantiront une analyse certaine de l'œuvre. On peut également donc prendre l'exemple de l'URL donc d'une œuvre bien connue dans ce domaine, donc qui est le non-roman donc de Lucie de Boutigny, dont je peux vous montrer un exemple qui illustrera également ce que peut être la littérature informatique et en quoi elle est tout à fait singulière, en quoi elle ne peut pas être transposée sur un support papier. Donc voilà la page d'accueil du non-roman de Lucie de Boutigny. Donc l'URL donc le voilà. Donc http://www.synesthesie.com/Boutigny. Donc on peut faire, comme je vous l'ai déjà signalé, une analyse sémantico-syntaxique d'un URL, donc en pointant que tout d'abord c'est le protocole http://www, donc qui nous signale que l'œuvre est sur cette sous-division de l'internet qu'est le web. Donc le serveur Synesthesie, qui est un serveur donc qui est aussi appelé nom de domaine, comme chacun le sait, qui est le lieu numérique donc où les données sont hébergées sur le réseau internet. On peut analyser ce terme donc synesthésie, qui est au départ un terme médical indiquant qu'une affectation touchant un sens va se répercuter sur un autre sens, qui prend aussi un sens donc évidemment chez Baudelaire, qui a cherché donc à créer des synesthésies. Ce site Synesthésie donc est un site d'art plastique mis en place par Anne-Marie Maurice. Donc il est intéressant de voir qu'une œuvre qui se présente comme un non-roman, donc qui s'inscrit dans le champ de la littérature, choisit d'être hébergée sur un site, un serveur qui s'appelle Synesthésie, donc qui a les résonances que je vous ai dites, et qui a priori est plutôt spécialisé dans les arts numériques. Donc on peut faire un certain nombre de constatations sur l'URL de l'œuvre, et on remarquera donc que le nom de dossier dans lequel est contenu le non-roman donc porte le nom de famille de Lucie de Boutigny, donc Boutigny. Donc là aussi, on pourra tirer des conclusions de ça. Donc on se demande pourquoi donc elle a préféré que ce soit son nom de famille qui soit le nom de dossier plutôt que non-roman, par exemple, ou tout autre nom. Donc il y a un certain nombre de constatations que l'on peut faire sur un URL, et on pourrait le répéter sur tous les URL d'œuvres numériques. De la même façon. Donc, alors second critère d'analyse qui là encore pourrait être considéré comme certain. Donc c'est l'ouverture de l'œuvre. Alors l'ouverture de l'œuvre, c'est tout simplement le fait de taper l'URL de l'œuvre, de l'inscrire dans un navigateur. Donc là encore au sein d'un protocole qui aura soin de mentionner la date de la manipulation et le type de matériel utilisé. Donc l'ouverture de l'œuvre consistera à inscrire donc cette URL et à rendre compte en fait de ce que l'on voit. On sait que si on tape l'URL de l'œuvre dans un navigateur, toujours au sein d'un protocole, on obtiendra toujours le même résultat. Donc de cela, on peut être certain, on peut lever l'objection donc soulevée par Edmond Couchot et d'autres quant à la critique des œuvres d'art numérique. Donc on va déjà faire ça. Ensuite, on va pouvoir, à partir de cette première page, tirer un certain nombre de conclusions. Par exemple, est-ce que cette première page ouvre sur l'ensemble de l'œuvre? Donc est-ce qu'à partir de cette première page, une navigation libre est proposée, ou est-ce qu'au contraire, une navigation contrainte sera proposée, qui obligera le lecteur à passer par un certain nombre d'étapes pour parcourir toute l'œuvre? Donc à partir de la première page, on peut tirer un certain nombre de conclusions qui seront là encore certaines. Donc troisième critère d'analyse, donc les balises head. Donc les balises head, pour ceux qui ne sont pas, comment dire, tout à fait familiers de l'écriture en HTML. Donc les balises head, c'est ce que l'on trouve derrière la page. Donc vous voyez, vous avez un exemple ici. Voilà, donc ça, ce sont les balises head de la page d'accueil du non-roman de Lucie de Moutille. Donc les balises head d'une page, on va les trouver très facilement. On peut y accéder très facilement. Donc par exemple, voilà, on est ici sur la page d'accueil du non-roman de Lucie de Boutigny, donc on va faire un clic droit et on va demander donc View Source, voilà, et donc on va voir les sources de la page, c'est-à-dire donc l'écriture HTML de la page, donc voilà, vous les avez ici, c'est les sources de l'œuvre, donc on peut y accéder assez facilement sur la plupart des œuvres, pas sur toutes. Donc, oui, voilà, effectivement. Donc voilà le code HTML de la page d'accueil du non-roman de Lucie de Boutigny. Et sur cette page d'accueil, on va trouver un certain nombre de balises. Donc le HTML est un langage de balises qui met derrière certaines balises un certain nombre d'informations. Et il va être particulièrement intéressant de se pencher sur les balises title, les balises donc titre de l'œuvre, les balises auteur, donc auteur de l'œuvre, les balises description, donc qui donne une courte description de l'œuvre, et surtout les balises keywords, les mots-clés de l'œuvre. Donc les mots-clés, il faut savoir qu'il est assez rare, en tout cas moi je n'ai jamais vu, que les mots-clés ne soient pas écrits par l'auteur de l'œuvre. Les mots-clés, c'est presque le quatrième de couverture. Bon, tous les quatrièmes de couverture ne sont pas écrits par les auteurs, mais bien souvent c'est le cas. Et donc ces mots-clés donc, que vous voyez ici, hein, je vais les surligner, enfin un certain nombre, donc les mots-clés, voilà, les voilà tous. Donc, si c'est bien l'auteur qui les a écrits, et donc la plupart du temps, ce sera l'auteur. Bon, si ce n'est pas l'auteur, on pourra également s'interroger sur la stratégie à l'œuvre derrière cette écriture. Donc, les mots-clés signifient en quelque sorte le désir de l'auteur de s'inscrire dans un espace numérique. Donc, comment est-ce qu'il va s'inscrire dans cet espace numérique? En écrivant ces mots-clés qui vont être lus par des moteurs de recherche. Donc ces mots-clés ne sont pas à l'origine destinés à être lus par nous, mais par des moteurs de recherche qui vont lire les mots-clés et indexer l'œuvre. Donc c'est l'organisation de la visibilité de l'œuvre sur l'Internet qui est organisée à travers l'écriture de ces mots-clés. Donc là vous pouvez constater par exemple qu'en premier, donc le nom de l'auteur est marqué avec plusieurs graphies différentes, avec majuscules, sans majuscules, avec particules, sans particules, avec prénom, rien que le prénom, etc., le nom complet. Donc on pourra se demander pourquoi, quand on sait que Lucie de Moutigny est aussi un auteur en littérature traditionnelle qui a un passé d'auteur littéraire, on comprendra que son souhait est de profiter de cette notoriété déjà acquise pour la mettre en avant. Donc, sachant que Lucie de Boutigny est déjà un auteur, apprenant qu'elle a fait une œuvre numérique, on peut être tenté de taper dans un moteur de recherche déjà son nom pour voir s'il apparaît quelque chose. Donc, il y a tout un jeu entre une stratégie auctoriale d'organisation de la visibilité de l'œuvre sur Internet qui se joue là dans l'écriture des mots-clés. Bon, j'ai fait une analyse de ces mots-clés par groupe, donc vous voyez très facilement qu'il y a un premier groupe constitué par le nom de l'auteur. Ensuite, il y a un second groupe qui commence à littérature, qui va être un essai de catégorisation de l'œuvre. Est-ce que c'est de la littérature? Est-ce que c'est pas de la littérature? Est-ce que donc ce n'est pas un roman, mais ça utilise tout de même le nom de roman, donc ça veut s'inscrire aussi dans un champ littéraire ou un métachamp, mais c'est aussi, donc ça fait partie des arts numériques. Vous voyez, donc il y a toute une stratégie de l'auteur qui, bon, dans ce cas-là, veut d'abord mettre en avant son nom, ensuite essaie de catégoriser son œuvre, et essaie ensuite de tisser des liens avec une communauté, donc une communauté d'hyper-littérature, d'écrivains, d'hyper-écrivains, etc. Une communauté qui se tisse également avec des noms propres, donc d'auteurs, vous voyez ici. Une communauté qui se tisse aussi à travers le site donc qui abrite l'œuvre donc Synesthésie, puisqu'il y a d'autres auteurs qui sont abrités sur Synesthésie. Donc le nom de Anne-Marie Maurice qui est donc à l'origine du site Synesthésie, etc. Ensuite également des prix donc qu'a reçu donc Lucie de Boutigny, donc le prix Beaumarchais pour le nom, etc. Donc vous voyez qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place par l'auteur à travers l'écriture de ces mots clés. Et là encore, c'est de ces mots-clés, nous pouvons être certains à l'intérieur d'un protocole qui sera énoncé au début de l'analyse de l'œuvre numérique. Donc dernier critère d'analyse, donc le format de l'œuvre, dont là aussi nous pouvons être sûrs. Donc le format de l'œuvre, c'est le format de l'œuvre, c'est comment dire la façon dont l'œuvre est écrite. Est-ce qu'elle est écrite en HTML simple, en HTML avec des additifs de programmes qui sont les JavaScript, permettent par exemple, non, c'est pas ce que je voulais. Donc les JavaScript permettent par exemple de permettre d'afficher ce petit pop-up ici, donc une soirée exceptionnelle avec la télévision, spéciale anesthésie pour cadre 3, voilà, donc ces petits additifs de programme sont des JavaScript, donc l'écriture HTML plus JavaScript est parmi les plus simples, mais permet quand même un certain nombre de choses, comme là encore des ouvertures, le multifenêtrage, etc. Voilà. Donc, est-ce que l'œuvre est écrite en HTML plus JavaScript ou en HTML plus PHP? Donc, le PHP, c'est un langage de programmation qui permet de programmer, une navigation forcée à l'intérieur de l'œuvre. Donc, ça peut être intéressant quand on veut proposer un parcours de lecture obligé au lecteur. Est-ce que l'œuvre sera écrite en format flash, etc. Donc le format de l'œuvre peut être énoncé avec une certaine, il faudra moduler cette partie de l'analyse en se rappelant toujours que certains formats, le flash plus particulièrement, par exemple, faire un dessin avec un format flash gommera les imperfections d'un arrondi, par exemple. Donc, on peut être un peu rebuté par ça, puisque si on veut justement faire un dessin avec des lignes brisées, avec des lignes avec un aspect un peu brouillon, ce sera un peu plus difficile avec un format flash. Voilà. Donc, il faut savoir que certains formats vont conduire l'œuvre dans une direction que n'aura pas forcément choisi l'auteur. Mais cela aussi peut être pris en compte. Il peut y avoir une volonté de l'auteur d'être également pris en charge à l'intérieur d'un format et aussi d'être pris en charge par une communauté qui se reconnaît dans l'utilisation d'un format. Voilà. Donc tout cela pour être analysé, et de cela donc on pourrait être certain à l'intérieur d'un protocole. Et donc ça clôt l'analyse immédiate des œuvres de littérature informatique. Donc l'analyse médiatisée des œuvres de littérature informatique, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises au cours de ce colloque. Donc l'analyse médiatisée s'appuiera sur des moteurs de recherche. Comme il est question dans le travail que je vous présente surtout d'œuvres de littérature informatique en ligne, j'ai donc pour l'instant sélectionné deux métamoteurs de recherche donc qui sont TouchGraph et Cartoon.com. Donc www.touchgraph, il n'y a pas de à la fin, là j'ai fait une erreur, donc www.cartoon.com. Donc très rapidement, quelles sont les possibilités offertes par l'un et l'autre? Je vais prendre un verre d'eau. Donc vous voyez ici l'analyse de l'URL, donc ce qui me passe par la tête, avec l'outil de recherche www.touchgraph.com qui s'appuie sur le moteur de recherche Google. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc l'URL, donc ce qui me passe par la tête, a été donc entré dans le moteur de recherche. On a appuyé sur la requête recherche, et on voit apparaître le site ce qui me passe par la tête.com au centre d'une série de liens qui lie l'œuvre à d'autres sites. Alors donc on peut évidemment s'appuyer dans cette partie du travail sur les travaux de John Kleinberg sur les notions de hub et de authority. Donc et notez donc que les liens entrants, donc les liens entrants sont en bleu et les liens sortants sont en rose. Voilà. Donc John Kleinberg a fait un travail sur les sites. Donc un site qui émet des liens vers les autres donc est dit un hub, et un site sur lequel aboutissent les liens est un authority. Alors dans un travail de méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique, il sera intéressant de lister les liens entrants et sortants ainsi que les liens réciproques. Les liens sortants pourraient être considérés comme la manifestation de l'intention de l'auteur, qui désigne des sites portails ou des œuvres ou des textes théoriques dont il estime que son œuvre est proche ou dont il veut se rapprocher en la liant. Les liens entrants pourraient être considérés comme signes de reconnaissance de la part de sites plus ou moins proches qui référencent l'œuvre en installant un lien vers elle. Mais comme le note Kleinberg dans son étude, le poids de chaque lien n'est pas le même. Si un site est une authority particulièrement représentative, par le nombre de connexions constatées ou par le nombre et la qualité des citations qu'il donne sa qualité de authority, le lien qu'il émettra en sera d'autant plus important. Pour la pertinence de nos cartographies, il sera intéressant de pouvoir mesurer la qualité, donc le ranking en anglais, des sites qui pointent vers l'œuvre dont nous voulons dresser la cartographie. Donc en résumé, la cartographie d'une œuvre avec TouchGraph nous permettra de situer l'œuvre dans un environnement hiérarchisé sur le net. Pour que cette carte soit vraiment signifiante, il faudra lister les liens entrants et sortants et établir la qualité de ces liens. Nous garderons toutefois d'en tirer la moindre conséquence sur une qualité littéraire ou artistique des œuvres étudiées. Ce développement de la cartographie avec TouchGraph nous permettra simplement de l'affiner. Quant aux conclusions en tirer, ce sera l'objet de discussions ultérieures. Pour l'heure, nous pouvons remarquer que la différence entre les liens de premier rang de deux œuvres aussi dissemblables que le non-roman, donc dont j'ai déjà parlé, et Days in a Day, donc une œuvre qui est plus proche de l'art numérique, de Pierrick Calvez. Donc cette différence est pour le moins marquée. Donc les sites de littérature informatique, de NetArt et de recherche mathématique pointent ou sont pointés par le non-roman. Les sites de romans graphiques, d'infographie et de NetArt pointent vers Days in a Day. Ce sont des choses dont par ailleurs on pouvait se douter, mais ça nous permet également de valider une certaine efficacité du moteur de recherche TouchGraph, puisque nous devons aussi nous intéresser de près à valider les outils de recherche avec lesquels nous travaillons. Alors très clairement, les liens émanant de non-romans ou y aboutissant définissent un environnement à forte dominante littéraire, tandis que ceux en relation avec l'œuvre Days in a Day vont plutôt loucher du côté de l'image animée et du net art. Donc les liens, voilà, on va lister évidemment dans le cadre d'une approche méthodologique des œuvres de littérature informatique en ligne, on va lister tous les liens. Voilà, on va lister donc tous les liens qui renvoient. Donc là, par exemple, dans l'exemple choisi, il s'agit de ce qui me passe par la tête. Donc on va lister tous les liens et donc essayer de les qualifier. Voilà, là encore, pour obtenir un environnement de l'œuvre qui là encore ne nous permettra pas d'analyser l'œuvre, mais au moins nous permettra de savoir ce que l'œuvre n'est pas. On sait au moins que cette œuvre, ce qui passe par la tête.com, n'est pas un site dédié, par exemple, à la vente d'objets de bricolage ou de jardinage. Voilà, on est au moins sûr, d'une chose, on est sûr que cette œuvre s'inscrit dans un contexte littéraire, artistique, et au moins on a cette assurance. Donc il pourrait être de quelque profit dans le cadre d'une méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique de consigner la cartographie du site ou de l'œuvre étudiée en ayant soin de noter sa date de réalisation. La suite de notre travail de recherche nous permettra de préciser toutes les conclusions à tirer de ce travail d'approche avec TouchGraph, mais nous pouvons déjà noter qu'une intertextualité peut déjà se dessiner, une intertextualité médiatisée. Précisons enfin que nous avons testé la fiabilité de cet outil de recherche en répétant à un mois d'intervalle la même opération et que les résultats obtenus ont été très sensiblement identiques. Les liens qui sont tissés sur le net ne changent pas tous les jours. Donc on sait que ces cartographies donc, qui tiennent compte surtout des liens vont être stables pour au moins un certain temps que l'on pourra vérifier. Donc le second outil d'analyse médiatisée sélectionné pour l'heure a été donc cartou.com. Donc chaque URL de l'œuvre analysée et apparaît sous forme d'îlots reliés à d'autres îlots par des chemins, des voies qui dessinent des thématiques. Voilà. Donc voilà comment se présente une cartographie de site Cartou. Voilà. Donc vous voyez l'URL au centre donc de ce qui me passe par la tête. Donc chaque URL est relié au site analysé et apparaît sous forme d'îlots. Les agrégats textuels apparaissent le long des voies qui relient les différents îlots entre eux. Et donc ces agrégats textuels permettent d'affiner une recherche en cliquant dessus. Donc là j'ai qu'une version donc sur papier, donc je ne l'ai pas tapé dans un navigateur. Mais donc quand on va donc passer la souris sur l'un ou l'autre de ces mots, il va apparaître dans la fenêtre de requête, comme vous voyez que sur l'exemple ici, donc le mot numéro est apparu, donc on va pouvoir relancer une recherche à partir avec l'ajout de numéro dans la fenêtre de requête. Voilà, donc cette cartographie donc avec Cartou permet par contre de dégager un certain nombre de thématiques à partir de ces agrégats textuels, mais le travail de vérification de l'outil donc Cartou.com à un mois de distance là encore nous a permis de nous rendre compte que il y avait une certaine instabilité des résultats. Donc là c'est un outil de recherche qui sera peut-être abandonné ou alors à utiliser vraiment avec des pincettes. Voilà. Donc là encore on listera donc tous les mots qui apparaissent, donc tous ces agrégats textuels ici. Voilà. Donc dans le cadre d'une méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique. Donc notre travail préparatoire, une méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique, nous a laissé pour l'heure aux frontières de l'œuvre. Pour ne pas faire de contresens, pour ne pas forcer l'analyse, et pour tenir compte du fait que la littérature informatique, avant de proposer un contenu, se présente sous un format nouveau qui n'est pas celui du livre, ni de l'œuvre picturale, ni de l'installation, ni de tout autre format connu précédemment. Nous devions donc tenter de trouver de nouveaux moyens d'approche, tout spécialement adaptés à ce nouvel objet d'étude. C'est ce que nous avons commencé de faire. Avant d'utiliser des outils de recherche basés sur des programmes informatiques, nous avons fait usage de tout ce que la simple lecture, par le truchement de l'ordinateur relié au réseau, mais une lecture raisonnée à l'intérieur d'un protocole, pouvait nous livrer. Une œuvre de littérature informatique se définit par un adressage électronique ou tout autre contenant qui pourra être analysé. Pour l'heure, nous nous sommes concentrés sur l'adressage électronique, qui a pour particularité d'être alphabético-numérique. Et donc cela, pour une étude située à l'intérieur d'un méta-champ de l'art verbal, ne devrait requérir que des capacités propres à notre discipline. Nous sommes donc rendus compte qu'effectivement, un URL pouvait être analysé de façon sémantico-syntaxique et pouvait être signifiant, avant même que l'œuvre ne soit parcourue. Il était particulièrement important de noter cela avant toute manipulation de l'œuvre, parce qu'aussi bien, et plusieurs sites évoqués au cours de cette communication, donc trajectoire.com, ce qui me passe par la tête.com, livredesmorts.com, donc ces sites, l'adressage de l'œuvre pouvait changer, voire disparaître. Donc une étude méthodologique devait aussi rendre compte, au sein d'un protocole, du devenir des œuvres, jusqu'à l'évolution dans le temps de leur nom de domaine. Voilà pour ce qui devrait rester comme le premier temps d'une méthodologie d'approche critique des œuvres de littérature informatique. Par la suite, nous avons posé trois autres critères d'analyse immédiate, donc l'analyse des balises de head, l'analyse de la page d'ouverture et enfin l'analyse du format. Ces trois données sont constitutives de l'œuvre, sont fixes au jour de l'analyse et donc doivent pour le moins être notées au sein d'un protocole avant de chercher à les interpréter. Mais nous avons vu que très facilement, et toujours pour la raison que ces œuvres sont écrites dans un langage de programmation alphabético-numérique, le HTML, langage dit de balise, nous pouvions déduire un certain nombre de choses, des balises de mots-clés par exemple, dont nous savons qu'elles sont écrites par l'auteur lui-même la plupart du temps. Les balises de mots-clés organisent la visibilité de l'œuvre sur le réseau Internet et manifestent en quelque sorte l'intentionnalité de l'auteur. À ce titre, nous pourrons les analyser comme nous analyserions n'importe quelle source, c'est-à-dire en les mettant en doute, en les questionnant. Ce que l'auteur veut dire, la destinée que l'auteur cherche à donner à son œuvre, n'est pas forcément conforme avec ce qu'elle est, ni avec ce que le public décidera qu'elle soit. L'analyse de la page d'ouverture relève quant à elle de deux démarches. Une démarche descriptive, qui devra s'appuyer sur la reproduction de l'image de la page en question, grâce à une capture d'écran, pour donner à tout le moins un compte-rendu technique des conditions de réception de l'œuvre. Et en second lieu, une démarche interprétative qui devra s'appuyer sur ce que l'analyse sémiotique a pu nous apprendre du travail de lecture des images et des mots. Mais nous savons aussi que la nouveauté de ces œuvres de littérature informatique est d'être parcourue par des réseaux de sens nouveaux, les liens hypertextes. Est-ce que les liens sont visibles ou non? Quelles interactions créent-ils avec les images, avec le texte? Voilà quelques-unes des questions que l'on pourra se poser au cours de ces lectures inaugurales qui outrepasseront pour le coup la lecture seule de la seule page d'accueil. Enfin, l'analyse du format des œuvres nous permettra d'éviter certains contresens dans l'analyse ultime des œuvres. Voilà pour le premier temps de notre méthodologie. Pour l'œuvre, l'œuvre aura été ouverte et nous aurons uniquement noté ce dont nous pouvions être sûrs en dehors de toute action sur l'œuvre, toute interaction qui induirait immédiatement une part de subjectivité et ou d'aléatoire qui rendrait caduque notre démarche. Avant de commencer une analyse de l'œuvre en naviguant à l'intérieur, il restait tout de même une autre façon d'en rendre compte en l'absence de toute subjectivité. C'est ce que nous avons fait avec les moteurs de recherche cités. D'autres outils de recherche peuvent être utilisés, ce qui sera fait ultérieurement au cours de ce travail de recherche. D'autres outils non seulement pour effectuer le même travail et le compléter, qui repose sur une analyse de l'URL et nous livre un environnement numérique de l'œuvre, une situation à l'intérieur de contexte, ce qui ouvre tout à la fois vers la sociocritique et vers l'analyse sémantique, mais également des outils qui feraient ce travail de cartographie à l'intérieur de l'œuvre. Ces outils existent, pour l'instant pas tous fiables, certes, mais ce sont des outils qui seront explorés. Une fois donc que ces prolégomènes auront été consolidés et peut-être complétés, un nouveau travail pourra commencer qui sera celui de lecture critique des œuvres, une lecture qui dès lors pourra s'appuyer sur des bases certaines. La navigation sera certainement un des sujets majeurs de cette étude, mais également tout ce qui ressort de l'analyse sémiotique dans la direction que nous avons déjà indiquée, c'est-à-dire une analyse qui tient compte de la présence des liens hypertextes à l'intérieur des réseaux de sens présents sur la page HTML. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup pour cette contribution à l'avancée des méthodes critiques, alors qui montrait d'ailleurs tout ce que ça a de spécifique, effectivement, examiner des mots-clés ou des ensembles c'est tout à fait spécifique à ce type de littérature, mais au fond qui renvoie à des pratiques assez connues des études littéraires sur papier. Quand on fait l'histoire d'un texte ou quand on examine son paratexte, on fait quelque chose qui ressemble à ce qui est proposé là. Alors, il y a plein de questions. Serge Bouchardon, puis
En étudiant, je me suis posé la question si on ne pouvait pas considérer que cette littérature que j'appelle informatique n'opérait pas un déplacement d'une critique du texte vers une critique du dispositif. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est que, comme tu l'as dit, il s'agit d'un premier temps, mais inévitablement, si tu ne peux pas en rester à l'approche critique à peu près éclairique, il se faudra analyser les formes d'interactivité pour une analyse critique d'une œuvre, qui va constituer la spécificité. La fin. Troisième chose, on a développé à Compiègne, là, c'est un peu de promotion, des outils cartographiques, donc basés sur les fonctionnalités de Canberra et de Paris, hein, de façon à identifier les agrégats, et donc les hubs, les authorities, la zone agrégale. On a fait ce travail-là pour la littérature francophone sur le web, voilà, en identifiant donc les sites un peu de référence, autorité par lesquelles ils sont pas, et ça de façon dynamique. Donc pour ceux qui seraient intéressés, peut-être à la disposition de la littérature francophone, c'était la promo à la manière.
On en reparlera, oui, surtout des outils de recherche. Bon, c'est vrai que là, je suis plutôt demandeur sur les outils de recherche. Bon, là, j'ai bien conscience que ceux pour l'instant que j'ai testés sont très imparfaits. Donc là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Donc, évidemment, je suis tout à fait ouvert à ce dialogue. Bon, quant à la progression dans ce travail de recherche, bon, ce que tu as énoncé sur le déplacement du côté du dispositif, bon, j'en ai un petit peu parlé, donc en énonçant les développements du côté de en s'interrogeant sur la présence des liens hypertextes à l'écran, est-ce qu'ils sont visibles ou pas, etc. Donc tout ça, c'est évidemment, doit être étudié de près, et donc fait partie de mes intentions, bien entendu.
Sans oublier que le texte est un dispositif aussi. Alors, Jean-Claude.
Moi, c'est juste la phrase initiale. Moi, je n'ai pas la mémoire exacte, mais approximativement, c'est le domaine sur lequel l'étude, c'est celui de texte qui n'utilise pas les textes précédents, mais qui sont une création.
Je vais retrouver ça.
Moi, je vais plus loin que. Je pense même pas à l'intertextualité, mais au stéréotype, au collage. Donc, il va falloir trouver une formulation assez souple pour reconnaître qu'il n'y a pas de création avec ce niveau même en numérique. Parce qu'après, quand tu vas aller dans l'analyse sémantique, tu vas bien être là, à l'instant, il y avait l'araignée et la toile, ça y est, on était déjà dans des champs sémantiques de lexique. L'instant, on va aller dans la réécriture de films d'imaginaire. Il y a énormément de choses à faire avec les clichés et les stéréotypes pour faire des œuvres originales quand même.
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que, quand je veux parler de littérature informatique, donc ça ne concerne pas, par exemple, des travaux d'adaptation de sonnets de Charles Baudelaire mis en images ou en musique. Donc, pour moi, ça ne fait pas partie du champ de la littérature informatique, parce que c'est qu'un travail d'adaptation. Moi, je veux vraiment parler du travail de création numérique, voilà.
Oui, mais c'est intéressant de s'intéresser à la culture du lecteur de la littérature informatique.
Oui.
C'est là qu'il trouve un plaisir, comment on a joué avec le langage de tous les jours.
Oui.
Et ça, c'est ça empêche de dire qu'on ne peut pas une fois de leur hasard.
Oui. Mais bon, après, là, je veux dire, la création, là, on se retrouve comme dans n'importe quel cas de figure, donc on peut créer à partir de collage, à partir de la réutilisation des mots du commun, la création est libre et infinie. Donc
mais encore plus qu'avec les autres, c'est pour ça que
oui.
Je
veux
dire.
Pardon.
Cette question de la préexistence est intéressante parce que les exemples sont très nombreux. C'est déjà celui de Deleuze, celui de Derek, celui de Cortázar. Je veux dire, Marel, c'est le principe de l'invention de l'intermédiaire textuel.
Oui.
Dans le sens où il y a un cheminement qui est proposé au lecteur qui n'est pas nécessairement celui qui va de la première page à la dernière.
Oui, c'est sûr que bon, les travaux par exemple de Jean Clément ont été décisifs dans ce domaine pour donner une filiation à la littérature informatique. Lui, il va la chercher jusqu'au traité du Viking, donc qui proposait donc ce traité divinatoire qui par un jeu de cartes permettait donc de livrer à chaque fois un nouveau texte différent, une nouvelle signification. Donc c'est sûr que les filiations on peut en trouver beaucoup. Donc peut-être que de façon délibérée, je choisis une stratégie de rupture pour la littérature informatique parce que c'est un objet culturel naissant et que d'une certaine façon, on peut aussi avoir besoin de cette rupture-là. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un choix qui est peut-être assez personnel, mais que j'assume. Bon, je dis effectivement, on est dans la littérature informatique, donc on sait parce que. On a forcément une culture antérieure, qu'elle soit du côté des arts plastiques ou du côté de la littérature. Donc on sait évidemment qu'on repose sur un certain nombre de fondements, mais on peut malgré tout tenter de les oublier si jamais c'est possible pour se laisser griser par la nouveauté du format et laisser un petit peu les œuvres du patrimoine où elles sont. Donc c'est peut-être une prise de position en fait de ma part.
Alors une question d'Alkmaar et puis
bon, d'abord en gros j'ai bien aimé là ton exposé, c'était clair, c'était organisé. Tout d'abord tu avais mentionné une certaine liberté de création par rapport au numérique, on opposait c'était un manque de liberté je sais pas pour ce qui est d'imprimer. Alors, je me suis dit, est-ce que créer, c'est toujours jouer avec des contraintes, ou alors chercher de nouvelles contraintes, comme nous avons appris au Lipo. Et tu as aussi, tout de suite, tu as mentionné aussi une possibilité de contrainte lorsque tu as proposé l'approche entre littérature numérique et jeux vidéo. Alors, j'aimerais bien que tu parles un peu plus de cette possibilité de jouer avec les contraintes aussi, le jeu vidéo et littérature numérique, quelle sorte de contraintes on pourra y trouver.
Oui, donc il y a effectivement un certain nombre de créateurs qui se sont inspirés du jeu vidéo, voire pour certains ont utilisé des moteurs propres au jeu vidéo qu'ils ont manipulé, dont ils se sont servis pour certains pour faire une critique des jeux vidéo, pour d'autres pour tout simplement se servir d'un matériel existant. Donc là la question ça c'est peut-être ma position par rapport au jeu vidéo. Est-ce que c'est un art? Bon, ceux qui travaillent dans le jeu vidéo se posent ce type de questions. Est-ce qu'on doit le considérer comme un art? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui permet de remplir les poches des multinationales qui s'intéressent à ça, qui les vendent? Moi, je pencherais plutôt pour la seconde solution. Bon, pour moi, le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine, qui repose quand même surtout sur un stimulus qui est agité, avec lequel on trouve une satisfaction. Donc est-ce qu'on va trouver cette satisfaction en passant un cap, en découvrant une énigme? Est-ce qu'on ne va pas la trouver? Donc pour moi le jeu vidéo j'arrive toujours pas à considérer que ça puisse être un art, parce qu'il y a ce côté très mécanique de la recherche d'une satisfaction donc qui arrive grâce à un stimulus, grâce à la découverte d'une énigme, etc. Donc ceux qui s'inspirent de ça paramètrent des navigations bloquées qui là encore reproduisent le fonctionnement du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va devoir passer par un certain nombre d'étapes pour aboutir à un résultat qui aura été décidé par l'auteur. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui me gênent un peu et avec lesquelles je ne suis pas très très proche, voilà. J'ai vu beaucoup d'œuvres dont j'ai fait la critique par ailleurs qui se sont servies du jeu vidéo pour dénoncer par exemple la guerre en Irak, par exemple. Donc j'ai fait une critique sur un jeu comme ça, là il y a une fois de plus un aspect très très mécanique du jeu que l'on détourne pour produire une certaine signification, mais qui là encore est très mécanique. On se sert d'un jeu par exemple qui a pour objet de tirer sur des individus pour dénoncer la politique de Bush en Irak. Bon, c'est très bien, mais la signification est tellement tellement claire, tellement évidente que où est l'intérêt? Est-ce de l'art? Bon, pour moi, l'art, c'est justement ce qui ouvre le champ de l'interprétation, c'est ce qui produit une zone de frottement entre l'œuvre et nous, à l'intérieur de laquelle nous pouvons produire beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est toujours pas du domaine de l'art, parce qu'il y a ce fonctionnement mécanique. Donc tu as parlé de contraintes. Là, les contraintes, pour le coup, sont vraiment du côté du lecteur et le conduisent quand même un peu comme un rat dans une cage vers l'endroit où on veut le conduire. Donc, ça, c'est ma...
Une question d'Isabelle, est-ce qu'on a qu'en pense où?
Juste à propos des outils de cartographie, même sentiment après les cartons, on perd beaucoup de temps et honnêtement, j'ai fait des croisements avec Copernic, et j'en sens les abus. Il y a surtout beaucoup de choses qui n'apparaissent pas dans cartons.
Oui.
On croit qu'on peut laisser de côté cet outil. Par contre, je trouve avec beaucoup d'intérêt l'autre outil.
Touchgraph.
Et l'existence de la conquête. C'est vraiment passionnant de savoir que ces outils sont mis en place. Et sans ça, moi j'ai une difficulté avec le premier schéma que vous présentez, mais je ne suis pas du tout informaticienne. Alors c'est quand je lis que le dispositif informatique donne les mêmes moyens au lecteur et à l'auteur, et quand je vois les difficultés que j'ai à comprendre ce qui se passe à l'écran, et le temps que j'ai mis à comprendre, c'est une évidence pour le moindre programmeur, enfin, je crois que c'est... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un hiatus de perception pour quelqu'un qui sait coder et un lecteur qui ne code pas, et donc il y a un lecteur de littérature.
Oui, c'est vrai que c'est un peu le problème de la littérature informatique. Bon, Philippe Boots, qui est un des théoriciens du domaine bien connu, a fait
une revue sur disquette il y a 20 ans.
Oui, bien sûr, qui existe toujours à lire, bien sûr. Donc propose la définition du lecteur expert comme étant un méta-lecteur, donc qui peut lire le code source de l'œuvre. Donc est-ce que tous les lecteurs peuvent se transformer en méta-lecteurs? Moi je crois que ça nécessite quand même beaucoup de savoir-faire, beaucoup de la maîtrise de beaucoup de langages de programmation, et évidemment ce n'est pas accessible à tout le monde parce que chacun a bien d'autres choses à faire que d'apprendre tous les langages de programmation. Donc c'est aussi pour ça que je travaille dans ce domaine-là de méthodologie, pour proposer justement des outils les plus simples possibles pour avoir accès, et aussi pour organiser facilement une médiation de ces œuvres auprès du grand public. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un domaine naissant, exploratoire, qui demande un certain nombre de savoir-faire. Donc ça, c'est un problème, hein, qui nous apparaît à tous très clairement.
Avant de vous donner la parole, je la garde un moment pour signaler au passage que c'est encore une problématique qui existe dans le domaine de la critique traditionnelle. C'est-à-dire qu'un critique a un savoir que le lecteur standard n'a pas forcément. Quelqu'un qui connaît la rhétorique classique va lire Bossuet ou Racine d'une manière différente d'un lecteur qui va découvrir tout ça. Donc je ne crois pas que ça apporte. C'est-à-dire le fait que le critique apporte une certaine technicité à sa lecture n'est pas quelque chose de nouveau, je crois, dans ce domaine. Il est évident que le jour où les générateurs de Pierre Balbe seront au programme de l'agrégation, ça va arriver. Et il faudra bien que la personne qui veuille en faire la critique sache comment fonctionne son générateur et ne se contente pas d'analyser les X textes qu'il a pu produire. Donc je crois que cette technicité du critique est quelque chose qu'il ne faut pas penser complètement nouvelle. Je vous donne la parole.
Une question de profane. Quel est le statut de cette littérature informatique? Il me semble que vous avez dit que cette œuvre est non reproductible. Est-ce parce qu'elle ne s'arrête pas dans le temps? Est-ce que l'auteur n'y met pas un terme? Parce que si l'auteur y met un terme, on peut la charger, la télécharger.
Non,
elle est extrêmement précaire. Enfin,
voilà. Non, je voulais dire que les parcours de lecture sont très très singuliers. Donc, puisque pour certaines œuvres, on peut aller directement à n'importe quel endroit de l'œuvre, comme c'est le cas pour le non-roman, et que certaines œuvres même organisent la non-reproductibilité de l'œuvre, comme des œuvres de Jean-Pierre Balck ou de Philippe Boutz, avec des moteurs de génération qui créent de l'aléatoire, et que donc l'œuvre ne sera jamais vue dans les mêmes conditions, la même œuvre ne sera jamais vue. Voilà. Donc ça c'est un problème tout de même pour faire une critique raisonnée d'une œuvre.
Voilà. C'est pas le cas de toutes.
Non, bien sûr.
Là aussi, je crois qu'on peut procéder par comparaison. Imaginez que je prétende publier un livre de critique sur la recherche du temps perdu, par exemple, et que je vous dise, je n'ai pas lu l'œuvre en entier. J'ai lu quelques pages. Je vais vous donner l'ordre dans lequel j'ai lu les pages, mais j'ai lu des pages dans un certain ordre. Et de toute façon, j'ai lu des textes que vous ne pourrez jamais lire. Dans la recherche et que j'écrive là-dessus, ça vous paraîtrait alors on peut, oui, on le montre là par la navigation, effectivement. Par exemple, dans le roman Lucide Boutini, le lecteur peut commencer par une des icônes qu'on voyait tout à l'heure.
Oui, il peut commencer. Il y a 6 épisodes qui ont été mis en ligne, donc on peut commencer par le 6e.
Par le 6e, et à ce moment-là, le sens évidemment va être différent. Et alors, c'est là, je crois, qu'il faut faire des critiques structurelles, systématiques, qui permettent d'analyser la grille générale et de savoir comment tous les lecteurs peuvent s'approprier cette grille, enfin, ou quelque chose de ce genre-là. Mais là, ce qui nous a été montré par Xavier, c'est plutôt l'amorce d'une étude du paratexte, de ce qui l'entoure, des réseaux qui se créent. Après, pour l'étude, parce que c'est vrai qu'ensuite, on va passer à l'étude du texte lui-même, ou enfin du... texte, le mot est encore un peu abusif, hein, mais du matériau que l'on va trouver à l'intérieur, il sera impossible, je pense, de faire un parcours et de dire je vais analyser ce parcours-là. Ça me semble assez difficile. Quoique, là encore, n'imaginons pas qu'on invente tout. J'ai pris la recherche comme exemple volontairement. On sait bien que la recherche peut être au moins relue dans un ordre qui peut être aléatoire, sans choisir un ordre linéaire, et on peut à ce moment-là avoir un parcours personnel. Mais il est rare aujourd'hui que la critique parte de ses parcours de lecture personnelle pour analyser l'œuvre. C'est encore la notion de dispositif, je crois, qui a été donnée tout à l'heure, c'est-à-dire un texte comme la recherche, c'est un dispositif textuel, qui permet une lecture linéaire, mais qui permet aussi des lectures thématiques, des lectures transversales, éventuellement, voire intertextuelles. On peut choisir la lecture, Jean-Clément l'a beaucoup montré, mais il y a des œuvres comme le Marel de Cortázar qui permet au moins 2 lectures différentes, dans laquelle l'auteur a prévu 2 dispositifs de lecture différents. Mais on peut en imaginer bien d'autres, et je crois que pour analyser ce genre d'œuvre, il faudra faire des analyses du système, du dispositif de production du sens, et d'essayer d'envisager tous les sens possibles qui pourraient être... Mais encore une fois, ça n'est pas propre à l'œuvre en ligne.
C'est plutôt une remarque à vous écouter. Ce qui me frappe, c'est que le modèle pour l'interprétation et l'analyse de ces productions, c'est beaucoup moins, évidemment, la littérature traditionnelle que les gens du spectacle. Dans la mesure où, quand on sert une pièce de théâtre, surtout le théâtre contemporain, n'est pas reproductible à l'identique d'une performance à l'autre, etc. Donc il y a toujours une part du public, au lieu, aux acteurs, à la part d'improvisation qu'on leur laisse, etc. Enfin, c'est une remarque peut-être qui nous semble inutile et gratuite, mais c'est l'impression que j'avais en
nous écoutant. Oui, oui, il y a un code source qui par contre est permanent dans une certaine mesure, voilà, dans l'œuvre numérique, ce qui le différencie tout de même des arts du spectacle, enfin pas de tous, mais bon, voilà, disons que c'est un objet nouveau et pas qu'on ne peut pas facilement comparer à quelque chose existant. On va prendre un petit bout ici pour comparer, mais bon, c'est quelque chose à laquelle on peut au bout d'un moment renoncer, parce que c'est vain, moi, de le comparer à d'autres, à des formes d'art antérieures, mais ça ne va pas produire, comment dire, un résultat toujours satisfaisant, parce qu'on peut le comparer aussi à un morceau de musique pour dire que c'est un objet temporel, etc. Bon, il y a plein de façons d'essayer de le cerner vraiment, mais est-ce qu'on trouvera celle qui est la meilleure? C'est pas tout à fait évident.
Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Xavier, dans la mesure où pour moi, pour une pièce de théâtre, il y a un texte qui est parlant, pour une partition, pour un morceau de musique, il y a une partition qui est parlante, elle est interprétée, aussi différemment qu'il y a des choses qui sont interprétées.
Oui, mais dans le cadre d'une performance, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de support, si tu veux.
Mais dans le cas d'une forme libre, flottant sur les ondes, il y a...
Et par exemple, une intimité, il est peut-être équivalent à l'instrument lui-même, c'est-à-dire, par exemple, le violon. Il représente un code source dont l'usage aura une activité de production.
Oui.
Donc, dans ce cas-là, c'est plus le morceau de musique, c'est plus la partition, c'est l'instrument lui-même.
Oui, effectivement. La différence, que c'est le lecteur qui va manipuler le code source, tandis que là c'est l'interprète qui va manipuler le violon, donc c'est un petit peu différent.
Je voudrais souligner aussi les caractéristiques de la littérature en ligne par rapport à la littérature électronique. Dans la littérature électronique, si par exemple vous achetez un CD-ROM avec une pièce de littérature ou de création électronique, vous êtes rassuré d'une certaine manière, parce que vous savez que sur cette galette, on ne va rien rajouter. Alors que lorsque vous êtes en ligne, en plus vous n'êtes pas sûr, c'est le cas pour les créations collectives, tu parlais tout à l'heure du livre des morts, vous n'êtes pas sûr que ce que vous lisez aujourd'hui sera là demain d'abord, on a vu des exemples de disparition. Et puis même que ça n'a pas été augmenté considérablement depuis la dernière fois, et que donc vous allez pouvoir faire encore d'autres parcours. C'est-à-dire c'est une œuvre qui est en création permanente, et ça c'est assez déstabilisant par rapport à ce que l'on connaît habituellement dans les volumes qui au sens géométrique ne peuvent pas s'étendre. C'est un peu l'équivalent de ce qui déstabilise lorsque par exemple on trouve un nouveau manuscrit ou Proust encore en est un bon exemple, on lit une édition de Proust et puis tout d'un coup on s'aperçoit que on peut le lire autrement, ou Pascal d'ailleurs, qu'on peut le lire autrement, qu'on a trouvé d'autres manuscrits, d'autres documents, et que ce que l'on a cru lire comme étant l'œuvre peut être lu encore d'une autre manière. Mais lorsque l'œuvre est en ligne, c'est sans arrêt. On peut vraiment, il est vraiment impossible par essence qu'on lise l'ensemble de l'œuvre. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va
s'arrêter. Je signale à ceux qui ne le connaîtraient pas mais qui souhaiteraient le saluer, que Philippe de Jonquière est arrivé, qu'il est parmi nous pour la journée, et comme il ne s'est pas présenté avant-hier, puisqu'il n'était pas là, le voilà. Merci Philippe.